khona ivakashi ebezikhona zaphesheya.
Remercions le Seigneur de nous
avoir
assemblés encore à nouveau ce matin.
There are some visitors from overseas who came these days, some have already left and returned, and some have just arrived. And I heard that those who left already said that they were very blessed. There are many overseas whom we are in contact with. And
way with Car il y a un futur si vous vivez pour le Seigneur. Et nous avons placé notre espoir en vous parce que nous devenons vieux et que vous puissiez servir le Seigneur en vérité. Ces derniers temps, nous avons commencé à retransmettre les messages sur Internet, mais les années avant, ce n'était pas comme ça, les années passées. Alors, permettez-moi de vous partager quelque chose. Parce que peut-être il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas comment le réveil a commencé. Peut-être beaucoup d'entre vous ici savent comment c'est arrivé, mais peut-être qu'il y en a beaucoup qui écoutent sur la radio ou autre part, qui ne savent pas. Le directeur de la mission, le pasteur Stegen, il lisait sa Bible et un jour, alors qu'il lisait, il a lu où Jésus demande « Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» Et quand Pierre a répondu « Oui, je t'aime », alors il lui a dit « Donne à manger à mes brebis ». Et alors, ce jour-là, il est allé voir sa mère. Et il a partagé cela avec sa maman. Il a dit « Je sens que le Seigneur m'appelle dans son œuvre pour que j'aille prêcher parmi les Zoulous ». Il y avait un pasteur qui était responsable de l'église des Blancs à cette époque, et c'était un certain monsieur Engelbrecht. Parce qu'en tant que jeune homme, alors qu'il avait rencontré le Seigneur, il avait ressenti le Seigneur qu'il appelait à visiter ces endroits où il y avait les Zoulous. Et même parfois, ses yeux piquaient dans les rondavels parce qu'il y avait tellement de fumée. Et ce jour-là, donc, sa mère a accepté, elle a dit « Ce que tu dois faire, fais-le ». Ils lui ont donné une voiture. Avec cette voiture, il est allé au sud de Durban, à Port Shepstone. Et à ce moment-là, il n'avait absolument rien. Il est arrivé avec sa valise, qui était accrochée avec des ficelles pour pas qu'elle s'ouvre parce qu'elle était cassée. Il n'avait pas assez d'argent pour de l'essence, mais il est finalement arrivé là-bas et il a mis une tente. Et le long de son chemin, il y a des hommes qui l'ont fait signe d'arrêter. Thank you. Et quand il s'est arrêté, ils lui ont dit, nous sentons dans notre cœur de te donner cet argent. Et donc, ils lui ont donné l'argent pour l'essence, pour lui, ce qui lui a permis d'atteindre sa destination. Il ne savait même pas quand il est parti comment il atteindrait sa destination parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Et pourtant, il a fait confiance au Seigneur. Et ces personnes qui l'ont arrêté lui ont donné assez d'argent pour pouvoir finir son voyage. Et donc, quand il est arrivé à Port Shepstone, il n'avait pas beaucoup d'argent pour la nourriture. Il pouvait acheter des pommes de terre et un peu de coco et du maïs. C'est ce qu'il pouvait manger, c'était pas trop cher et au moins ça le satisfaisait. Et ceux qui étaient avec nous en 1970, quand nous avons commencé ici, dans ce lieu à Kwasi Zabantou, vous vous rappelez que c'était aussi ce que nous mangeons. Il n'y avait pas de riz, pas de viande. C'est ce que nous mangeons. Il était le seul homme blanc au milieu de nous. En retournant à Port Shepstone, quand il était là-bas, il y avait une poule qui venait dans sa tente et tous les matins, elle venait mettre un œuf dans sa tente. Après quelques jours, il est allé voir les voisins et il a vu la dame là-bas. Il a dit, votre poule, elle vient toujours pondre ses œufs dans ma tente. Imaginez, il n'avait même pas assez d'argent pour acheter des œufs. Il n'avait pas de frigo. Il ne pouvait pas acheter de la viande. Pas d'argent pour se payer de telles choses. Quand je pense à cela, je me suis dit peut-être ses parents avaient l'idée que de laisser faire ce qu'il pensait, son idée un peu enfantine. Et comme ça, quand il aura plus d'argent, plus de ressources, plus d'argent pour la nourriture, plus d'essence, peut-être qu'il rentrera à la maison. Et ils se sont peut-être dit, bon, on va attendre et voir quel en sera le fruit. Mais cette dame à qui il a parlé au sujet des œufs, elle a dit, sens-toi libre, si ma poule pond des œufs dans ta tente, alors ils sont à toi et tu peux les prendre. Et donc, il avait son œuf tous les jours et c'est comme ça qu'il a vécu. À sa maison, là où il y avait ses parents, ses frères, ils avaient une vie très confortable, mais lui, il a vécu beaucoup de difficultés là où il était. Et donc, il s'est déplacé de cette région vers Kingscliff et après vers Mapumulo. Et il a senti qu'il devait être là-bas. Ça, c'était dans les années 62-63. Il a ressenti dans son cœur qu'il devait monter une tente et prendre des réunions à cet endroit. Et ma mère a été à ces réunions et elle s'est convertie. On a vu les changements dans sa vie. Parce qu'avant cela, elle et mon père avaient toujours des disputes. Et quand j'ai remarqué le changement dans la vie de ma mère, cela m'a amené à l'Évangile. Et aussi, moi aussi, j'ai donné ma vie au Seigneur parce que j'ai vu comment ma mère ne répondait plus à mon père parce que le pasteur Stegen lui avait recommandé cela parce que mon père buvait et le pasteur lui avait dit « Quand il parle, ne réponds rien. » Reste silencieuse, ne te dispute pas, n'argumente pas. Et j'ai remarqué cela. Et le pasteur Stegen a souvent dit, « Femme, ne prêchez pas à votre mari. » Il disait, « Vis une telle vie que par ta vie, tu puisses gagner ton mari. » Et de cette façon, mon père en est aussi arrivé au point où il s'est converti. Pasteur Stegen avait un cœur tout particulièrement, un point tout particulièrement pour les enfants, les jeunes enfants et les jeunes, pour les gagner au Seigneur. Et il s'est rapproché de nous, jeunes gens, en réalisant que le futur était en nous, les jeunes. Et c'est là que nous avons réalisé que cet homme est un véritable dirigeant, un leader. Et pour cela, nous vous disons, vous les jeunes, le futur est dans vos mains. Il nous visitait dans nos maisons, différentes régions, Pomeroy, Kingscliff, et nous enseignait comment planter, par exemple. Il nous enseignait comment utiliser des engrais. Et là où était notre maison, nous avons vu comment Dieu nous a aidés. Après quelque temps, mon père commençait à prospérer. Il a pu acheter une voiture, un bus, et le Seigneur l'a béni. Et même d'autres personnes qui étaient des veuves, parce qu'elles ont utilisé leurs mains, elles sont devenues créatives et elles ont planté et récolté. Plusieurs d'entre elles aussi ont pu se permettre d'acheter des voitures. Et l'Évangile a été prêché comme un feu dans la région de Mapumulo. Et c'est comme cela que l'Évangile a été répandu. Ça, c'était les années 63. Et ensuite, en 1966, il a eu des réunions pour nous. Et pendant ces réunions, il nous a posé cette question. Il a dit, Nous lisons que s'il est écrit dans la Bible, si vous croyez en moi comme la Bible le dit, comme les Écritures le disent, alors des fleuves d'eau vive couleront de vous. Et est-ce que ces fleuves coulent de nous? Il a dit, moi non plus, je ne peux pas. Nous avons répondu non et il a aussi dit, moi non plus, je ne vois pas cela. Et après cela, nous avons vu comment des fleuves d'eau vive ont coulé. Quand les gens sont arrivés en masse et qu'il a été invité à des enterrements, à des mariages, et l'évangile s'est répandu. Quand le père du roi est décédé, le prince Boutelesi l'a invité et il a dit « Viens à l'enterrement ». Il a pu parler à cet enterrement aussi. Et tout cela a gagné le cœur des gens parce que lui, en tant qu'homme blanc, il se s'imprégner dans la culture et dans les gens qui étaient autour de lui. Nous étions émerveillés qu'il puisse venir dans nos maisons librement, qu'il nous visitait. Nous ne connaissions pas ses frères à l'époque, mais lui, nous le connaissions. Nous lui préparions à manger et il mangeait avec nous. Nous étions surpris qu'il mangeait notre nourriture, la nourriture que nous lui avons préparée. Et tout particulièrement la façon dont il a visité les huttes et les maisons, ça nous a vraiment touchés. Si nous retournons à 1966, le bâtiment dans lequel nous nous rassemblions pour nos réunions, c'était un vieux bâtiment qui était comme une étable. Nous avons dû nettoyer et enlever tout le purin qui y était. Et c'est là que nous tenons nos réunions. Mais nous n'avons pas vraiment fait attention à l'état du bâtiment. Nous étions là pour chercher le Seigneur et pour l'adorer. Et par cela, je veux vous expliquer, vous montrer comment c'est. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est vraiment appelé par le Seigneur dans son œuvre? Parce que dans ces temps-là, nous nous rassemblions dans des tentes et l'œuvre a progressé jusqu'au point où nous en sommes maintenant. En 1974, je saute quelques années, Dieu nous a partagé et nous a dit qu'il allait prendre l'évangile que nous avions reçu et il allait le répandre dans le monde entier. Et ensuite, le pasteur Stegen a été invité en Europe pour prêcher. Et alors, et comme ça a été dit, l'évangile allait être prêché dans le monde entier. Il a été invité dans beaucoup de pays pour prêcher en Europe. Et nous avons vu comment ce rêve a été réalisé. Et alors qu'il était dans l'avion, il a vu beaucoup de maisons. Et ça l'a touché dans son cœur. Et il s'est dit, comment est-ce que je pourrais jamais atteindre toutes ces multitudes pour l'évangile de notre Seigneur? Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de Jésus. Et alors, il a eu sur le cœur la pensée que nous devions prier pour que Dieu donne les moyens pour commencer une station radio ici sur la mission. Et en effet, Dieu a pourvu les fonds nécessaires pour pouvoir construire ce bâtiment. Je ne peux pas vous expliquer combien nous étions heureux quand nous avons commencé à annoncer l'évangile sur la radio. Et maintenant, on peut même retransmettre dans tous les pays du monde. Et tout cela parce que le pasteur Segan a été obéissant à l'appel de Dieu qui, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes véritablement? Il a dit, oui Seigneur, je t'aime. Alors maintenant, prends soin de mes brebis, nourris-les. Il a été obéissant à ce passage. Et de cette façon, l'évangile a pu être prêché. Et nous ne pouvons seulement dire, pasteur Stegen, que le Seigneur te garde. Parce que s'il n'avait pas été obéissant, elle serait arrivée au ciel et on lui aurait dit, oui, tu as été plein de succès sur la terre, tu as tout ce qu'il te faut, mais voilà ce que j'avais préparé pour toi, c'est ça que je voulais que tu fasses comme travail pour moi, mais tu n'as pas fait cela. Et pour cela, ta récompense est en enfer. Et même par rapport à cet auditorium, il a dit que nous puissions prier à ce sujet parce que nous avons besoin d'un bâtiment où 10 000 personnes puissent rentrer, mais nous n'avons pas l'argent pour cela. Prions pour que Dieu pourvoie cet argent. Et par rapport à la pièce où tout le monde se rassemble pour manger, il a prié aussi à ce sujet. Pour l'avion, nous avons prié pour pouvoir avoir un moyen de déplacement pour les grandes distances. Et le Seigneur a aussi répondu à cette prière. Son motto, c'était... Tu reçois en vivant véritablement pour le Seigneur. C'est ça qu'il disait souvent. Vis véritablement pour le Seigneur et alors tu recevras les choses dont tu as besoin. Et c'est cela que nous avons vu de son exemple. Pas ce qu'il a dit, mais nous l'avons vu dans sa vie. Et nous avons reçu beaucoup de cela. Et nous avons pu expérimenter cela dans nos vies aussi. Beaucoup, beaucoup de jeunes personnes ont été aidées, ont été sauvées. En prenant part au camp d'enfants, parce qu'ils ont reçu la parole, tout ça résultant de son obéissance à Dieu. Écoutez maintenant aussi ce que le Seigneur veut faire. Et obéissez à Dieu. Et vous verrez, vous, ce que Dieu peut faire pour vous. Et vous en verrez le fruit de l'obéissance. Combien c'est merveilleux que c'est précieux d'obéir au Seigneur. Nous allons lire deux passages. Je voulais juste vous partager cela, ce petit peu du témoignage d'Oncle Erlo. Je l'ai gardé court pour que vous ne vous endormiez pas. Mais rappelez-vous comment Dieu a parlé par ce rêve que l'Évangile pourrait atteindre toutes les nations et comment cela est arrivé vraiment, et que ça s'est passé comme cela. Si vous voulez voir, si vous avez ce don de Dieu qui te parle par les rêves, regarde si ces rêves s'accomplissent. Il se peut aussi, Pasteur Stegen a dit, que tu rêves quelque chose et que en fait c'est un rêve parce que tu as trop mangé, par exemple. Et vous avez besoin de tester et de voir si les rêves ou les visions que tu as s'accomplissent. Je partage avec vous ce que Pasteur Stegen nous a enseigné. Et c'est comme ça qu'il nous a encouragés dans la parole de Dieu. Nous allons lire d'abord dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous parlons ici de la grâce. Il y a eu déjà deux réunions les derniers dimanches où nous avons parlé de la grâce. Je voulais aussi en parler, mais le temps n'était pas arrivé. Nous sommes sauvés par la grâce. Et même notre foi, c'est à cause de la grâce. Nous ne pouvons pas faire cela de notre propre moyen. Si tu crois, c'est un don de Dieu. C'est pas parce que tes parents disent « Maintenant, tu dois croire », alors tout d'un coup, tu crois. Et une personne ne peut pas dire « J'ai choisi le Seigneur Jésus, que je puisse son enfant ». Non, nous croyons par la grâce. C'est un don de Dieu que nous puissions croire. Ça ne vient pas de nous-mêmes. C'est quelque chose que nous recevons de Dieu. De pouvoir véritablement croire et avoir foi en lui. Un jour, je suis allée voir ma mère alors qu'elle travaillait pour un monsieur Kopp à un magasin, à Mapumulo. Et alors que nous étions en chemin, elle m'a dit je souhaiterais tellement qu'un de mes enfants accepte la foi et qu'il puisse être une lumière pour ses frères et sœurs. Et dans mon cœur, j'ai prié, Seigneur, que ça puisse être moi. Et cette prière que j'ai priée dans mon cœur, Dieu l'a entendue. Et vous qui n'avez pas cru encore, demandez à Dieu que je prie que Dieu vous aide à croire. Et Dieu va entendre. Il va entendre vos prières, votre souhait. Si vous ne croyez pas, il va vous aider à croire. Tu dis, je ne veux plus d'alcool, je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela. Je veux être ton enfant. Je veux te croire véritablement, croire en toi véritablement. Demande-lui cela. Par la grâce, vous avez été sauvés par la foi. Et cela n'est pas votre œuvre. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui se passe automatiquement. Tout d'un coup, tu crois. C'est un don de Dieu. Et je vais vous demander, est-ce que ta foi, la foi que tu as, où est-ce que tu l'as eue? C'est pas surprenant que ta vie est dans l'état où elle est. Si tu regardes seulement tes parents ou d'autres personnes de ta famille, tu les copies juste parce que eux ils croient. Ça ne t'aidera pas. Tu as besoin de demander au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin d'être sauvé, je veux croire. Pourquoi est-ce qu'on appelle cela un don de Dieu? Dans Jean, Seigneur Jésus dit, « Je te remercie, Père, pour ce que tu m'as donné. » C'est Dieu qui donne, qui les donne au Seigneur Jésus, ceux qui ont été sauvés et purifiés par son sang. Et vous, parents, priez pour vos enfants. Si vous voyez qu'ils manquent cette foi, priez que Dieu leur donne ce don qui vient de lui. Oui, tu as reçu la foi. Et tu as reçu ce don de la foi. Mais comment tu traites ce don qu'on t'a donné? Est-ce que tu t'en occupes? Est-ce que tu en prends soin? Comme quand on te donne un cadeau, les gens regardent la façon dont tu t'en prends soin, comment tu l'apprécies. Ce don que tu as reçu par la grâce de Dieu, qui nous a vus de et qui a eu pitié de nous, et alors il a envoyé son Fils pour nous sauver. Cette grâce est grande, que nous puissions être appelés les enfants de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons. C'est un don que nous puissions être appelés ses enfants. Cette grâce est grande, que nous avons été sauvés et ça n'a rien à faire avec nous. C'est un don de Dieu. Au verset 9, il est dit « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Il y a ceux qui sont orgueilleux et qui disent « Oui, je suis un croyant. » Mais il n'y a aucune raison, vous n'avez aucune raison pour vous glorifier parce que vous n'avez rien fait. Ce n'est pas à cause de bonnes œuvres ou de vos actions que vous avez été sauvés. Au lieu de remercier le Seigneur, de le remercier qu'il ait eu pitié de toi, mais tu trouves certaines personnes qui s'élèvent, qui sont orgueilleuses, qui disent « Oui, j'ai fait ceci, cela, j'ai été sauvé, je suis un tellement bon chrétien. » Nous sommes son œuvre, sa création, son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est le verset 10. Nous devons marcher droit pour le Seigneur Jésus qui nous a appelés, parce que c'est lui qui a fait cela, que nous soyons sauvés. Et je veux lire aussi dans Romains, chapitre 6. Où il est aussi parlé de la grâce. Nous avons été sauvés par la grâce. C'est pas quelque chose qui vient de nous, c'est seulement une grâce. C'est un don de Dieu. au verset 6. Chapitre 6, verset 1. Que dirions-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Pardon. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Si nous sommes morts avec Christ, comment pouvons-nous continuer à vivre dans le péché ? Vous, frères et sœurs, qui disent « Vous êtes sauvés par le Seigneur Jésus », comment est-ce possible que vous continuiez à vivre dans le péché ? Comment pouvez-vous continuer dans le péché et le laissez régner dans votre vie alors que vous appelez enfant de Dieu. Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Nous devons vivre en unité de vie, nous qui avons été baptisés par la mort de Christ. Notre vie devrait être différente. Est-ce que les gens voient ça dans ta vie, que tu as changé? Quand ils regardent ta vie, qu'ils peuvent dire « ta vie est différente » de ce qu'elle était en 2021. Par ta vie, par tes paroles, par tes conversations, est-ce que les gens voient et remarquent que tu as reçu une nouvelle vie en Jésus-Christ ? Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Il y a des personnes qui sont esclaves du péché. Ils n'aiment pas le faire, mais ils ne peuvent pas s'empêcher. Comme un exemple, une personne qui est addict à la pornographie, n'aime même pas regarder, mais c'est quelque chose qui le tire à regarder plus, plus et plus, et de nouveau, à nouveau, à nouveau, et lire des livres et regarder des choses qui le souillent. Certaines personnes sont poussées par le diable comme un cheval qui ne peut pas s'arrêter. Ces personnes vivent la vie de Sodome et Gomorrhe. Imaginez si Dieu arrivait maintenant et prenait ces personnes, où iraient-elles ? Dieu a patience avec eux jusqu'au jour du jugement. Mais pendant ce temps, cette vieille vie aurait dû être crucifiée sur la croix et que ce soit fini. Certaines personnes ne savent pas, quand tu parles de la vieille vie, d'être crucifié. Ils ne comprennent pas cela. Cela veut dire se repentir. En Zoulou, le mot repentir veut dire se retourner, tourner dans l'autre sens, dans l'autre direction. C'est ce que cela veut dire. Tu allais dans la mauvaise direction, maintenant tu vas dans la direction opposée. Les gens voient ta vie et ils voient si la vieille vie est finie ou si tu es dit que tu es un croyant mais que tu es un menteur parce que la vieille vie est encore en toi. Par exemple, si tu buvais, alors tu dois arrêter de boire. Si tu fumais, alors tu dois arrêter de fumer. On ne devrait même pas sentir une petite odeur de fumée dans ta vie. Mon père disait, quand il était sous, il disait, mon enfant, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Des fois, il tombait même à la renverse. Et on savait tous que son père, notre père disait qu'il ne se sentait pas bien, mais on savait tous qu'il était saoul. Et un jour, le pasteur Stegen, sur son chemin en venant nous visiter, a trouvé mon père qui était en train de marcher en zigzag. Et il a dit, « Monsieur Dubé, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je peux vous aider ?» Il a dit, oh, pasteur, je me sens pas très bien, je suis malade. Il a dit, est-ce que je peux prier pour toi? Alors il a prié pour lui, juste à cet endroit-là sur le chemin. Et dans sa pochette, dans sa poche de sa veste, il avait une bouteille d'alcool. Et alors qu'il s'est mis à genoux pour prier, la bouteille est tombée. Et le pasteur lui a dit, alors, qu'est-ce que c'est que cela? Il a dit, non, pasteur, ne t'inquiète pas, c'est un petit peu d'eau que je porte avec moi. Quand j'ai soif, je bois un petit peu, juste pour me garder sur le chemin. Et laissez-moi vous dire, mon père buvait vraiment de l'alcool et des liqueurs très fortes. Je ne sais pas si c'est juste pour moi de dire cela. Même quand il urinait, l'herbe, elle mourait. Parce qu'il buvait de l'alcool très fort. Et quand il est rentré à la maison, il a vu ses amis là, il leur a dit, vous pouvez prendre vous pouvez boire un petit peu de cela. Et quand son ami a bu, il a vomi. Et alors mon père a dit, non, laisse-le moi. Et alors lui, quand il a bu, il a aussi vomi. Alors son ami lui a dit, Monsieur Doubé, qu'est-ce qui ne va pas avec cet alcool? Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette bouteille. Il a dit, non, tu sais ce qui s'est passé. J'ai rencontré l'homme blanc sur le chemin et je lui ai menti. Et maintenant, Jésus s'est mis dans cette bouteille. Et ces deux hommes, ce jour-là, ils ont arrêté de boire l'alcool. Et juste pour cela, j'ai appris à respecter et à honorer le pasteur Stegen. À ce moment-là, il n'a pas dit « Arrête, il faut que tu confesses tes péchés. » Mais il a été poussé à dire « Est-ce que je peux prier avec toi ?» Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas dit « Confesse tes péchés ici maintenant et je vais prier pour toi. » Je fais de même quand certaines personnes viennent vers moi et ils rapportent leurs problèmes. Ils disent qu'ils sont troublés par ceci, par cela. Je prie avec eux et je laisse le Seigneur pour qu'il travaille dans leur vie. À Mapumulo, quand le pasteur Stegen prêchait, M. Doubé est venu dans la réunion et il a dit « Arrête-toi là ». Je veux que ma femme vienne rentrer à la maison. Et il voulait voir comment le pasteur réagirait. Le pasteur est resté silencieux. Et M. Doubé, donc mon père, a pris sa femme à la sortie de la réunion. Et je me suis demandé s'il était venu pour la battre, parce qu'elle était à la réunion. Et je n'ai pas réussi à bien me concentrer sur le reste du message. Mais à ce moment-là, Pasteur Stegen s'était humilié quand il lui a dit « Arrête-toi, je veux prendre ma femme ». Il s'est arrêté, laissé l'homme prendre sa femme et après il a continué à parler. Peut-être que toi, tu aurais réagi différemment. Tu aurais dit du pupitre, tu es possédé de démons, tu es sous, tu es venu déranger le travail du Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aurais dit. Mais nous avons été gagnés par sa réponse, par la façon dont il a réagi. Nous avons vu qu'il était vraiment un dirigeant inspiré. Lisons donc le verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. « si nous sommes morts avec Christ, alors nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Peu importe ce que nous faisons, nous croyons que nous vivons avec lui. Avec qui est-ce que tu marches? Est-ce que tu fais? Avec qui tu le fais? Si tu pêches, est-ce que tu fais cela avec le Seigneur Jésus? Est-ce que tu marches encore avec lui? La réponse, c'est Jésus n'est pas avec toi. Et comme nous lisons, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Jésus vit en nous. Il vit en toi. Et tu expérimentes cela quand tu chantes ou quand tu lis la parole de Dieu. Jésus est en toi. Et il te parle. Est-ce que tu expérimentes encore cela? Est-ce que tu expérimentes Jésus qui est en toi, qui vit en toi? Peut-être tu essayes de prier et tu t'endors. Et tu te réveilles et tu réalises, oh, j'étais en train de prier. Et aussi quand tu as des rêves, teste-toi. Est-ce que tu as des mauvais rêves? La Bible dit, les jeunes gens vont rêver des choses, les vieux, vieilles personnes auront des visions. Quand tu rêves, demande-toi, quel genre de rêve est-ce que tu as? Si tu as des mauvais rêves, tu t'appelles enfant de Dieu, est-ce que tu vis véritablement avec lui? Particulièrement si tu es encore dirigé par l'orgueil, parce que l'orgueil et la convoitise vont ensemble. Au verset 10, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Nous avons besoin de vivre pour Dieu. Nous avons lu cela déjà. Nous devons vivre pour Dieu. Dans ta maison, est-ce que les enfants savent, toi le Père, que tu vis pour Dieu? Que ton frère sait que tu vis pour le Seigneur? Mes enfants savent que je vis pour le Seigneur. Là où nous sommes, là où nous vivons, là où nous dormons, est-ce que nous sommes connus pour le fait que nous vivons pour Dieu? Frères et sœurs, nous devons expérimenter les avant un avant-goût du ciel alors que nous vivons ici sur la terre. Ne pense pas que tu vivras pour Dieu juste quand tu arrives au ciel. Tu dois vivre pour Dieu ici sur la terre. Ne me dis pas que tu vis pour Dieu. Si ton enfant fait quelque chose et tu t'irrites et tu es en colère à cause de cela. Ne me dis pas que tu vis pour Dieu si tu vas te coucher et que tu n'as même pas prié. Le Seigneur a dit à ses disciples qu'ils devraient toujours prier, sinon ils pourront tomber dans la tentation. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Nous devons mourir au péché. Enfants de Dieu, que nous mourions au péché. Vous, jeunes gens, vous devez être morts au péché, à la convoitise de la chair. Certaines personnes sont tellement troublées par les questions du mariage. Et certaines personnes chantent, mais peut-être dans la chorale, mais ils chantent juste pour être vus. Mais si tu vas voir leur conseiller, tu verras, tu en sauras qu'ils ont des problèmes. Ils confessent leurs péchés, ils y retournent tout le temps. La parole dit, est-ce que nous devons continuer dans le péché pour faire abonder la grâce? Non, vous ne trouverez pas de grâce de cette façon. Si vous décidez, je m'énerve et puis je recommence. Je vais juste m'énerver avec cette personne et après j'irai le confesser. Non, vous avez besoin de vous séparer du péché. Arrêtez de pécher et que tu saches par expérience que tu en es séparé. Demande-toi, est-ce que le péché ne règne pas dans ta vie? Peut-être la convoitise est dans ta vie, règne dans ta vie. Est-ce que tu sais que tu as reçu le Seigneur Jésus, que sa grâce seulement est un don de Dieu? C'est ce que nous avons dit au début. C'est un don de la grâce, c'est un don de Dieu à nous. Ça n'a rien à faire avec nous. Alors ne prenons pas cette grâce et la traiter mal, l'écraser sous les pieds. Si tu es un croyant, sois un croyant complètement, entier. Et montre par ta vie que tu n'acceptes pas les choses du monde. Certaines personnes sont très contentes quand leur fille a une affaire avec un homme et qu'elle ramène des sacs de nourriture et ne demandent même pas où c'est qu'ils l'ont reçu.
Allow me just to say that what we've heard is gold.
Laissez-moi vous dire que ce que nous avons entendu, c'est de l'or. C'est de l'or pur. Depuis le début, le témoignage de comment Dieu a visité les Zoulous au début. Jusqu'à la fin, où nous avons entendu parler de la grâce. Laissez-moi rajouter ceci. Alors que j'écoutais ce témoignage, comment a commencé le réveil ? C'était certains. Est-ce que c'était par certains rituels, à faire refaire ceci, refaire cela, répète ceci après moi? Garde certaines lois, certaines directions. Ça, ce serait le légalisme. Mais si je peux parler en langage figuratif, langage figuré, ce que le Saint-Esprit a fait au milieu d'eux, le Saint-Esprit les a rendus malades, si je peux dire. Paul dit, celui qui retourne à son péché, c'est comme un chien qui retourne à son vomi. En autre mot, tu as été malade, tu as vomi ce péché. Si tu prêches à des personnes et tu leur dis de vomir, mais ils ne se sentent pas malades, ils diront que tu fais des lois. Ils diront que tu es légaliste. Parce que tu leur dis comment vomir, mais ils ne se sentent même pas malades. Qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu est descendu au milieu d'eux? Et nous avons eu le privilège de l'entendre d'une personne qui était là-bas. Le Saint-Esprit les a convaincus de leur péché. Et ils se sont sentis malades. Et ils ont voulu se débarrasser de cela. Vous savez ce qu'est le problème principal des gens qui quittent ici en disant que c'est le légalisme? Ils ne se sentent pas malades, ils n'ont pas de nausées par rapport à leur péché. Alors oui, c'est bien juste des lois qu'ils entendent. Regardez chaque réveil qui s'est passé. Vous pouvez prendre le réveil de Corée, le grand réveil de Jonathan Edwards, le réveil d'Afrique de l'Est. Quand le Seigneur est descendu sur eux, ils ont été convaincus de leur péché. Et c'est merveilleux pour moi de voir comment ça a été expliqué pour nous aujourd'hui. Si nous sentons nauséeux, malades, qu'est-ce qu'il faut faire à ce sujet ? c'est pour ces personnes que nous prêchons. Ceux qui se sentent convaincus. Ceux qui sont malades. Les autres personnes, c'est un message bien sec et quelque chose que vous ne comprenez pas. Mais pour chaque personne, chaque parole, chaque verset que vous avez entendu a été un message précieux comme de l'or pour ceux qui sont malades, qui savent qu'ils sont malades. Par la grâce de Dieu. Et nous savons que la grâce de Dieu est apparue. Tout homme. Et nous avons célébré cela à Noël. La grâce de Dieu dont nous avons entendu parler aujourd'hui, c'est Christ, notre Seigneur. Nous voulons prier ensemble. Merci Seigneur, parce que nous avons entendu ce matin, point par point, comment être convaincu et comment vivre par ta grâce. Nous te remercions Seigneur, pour un homme qui n'est pas passé par tout cela parce qu'il voulait gagner l'orgueil ou de l'honneur pour lui-même. Mais un homme qui aimait un autre peuple et qui a fait ce qu'il a fait à cause de son amour pour eux. Et parce que tu l'aimais. Aide-nous, Seigneur, que cet esprit soit aussi en nous. Que nous ayons de l'amour pour notre voisin. De la volonté d'amener l'Évangile à notre voisin. Et que, Seigneur, que cet évangile ne meure pas au milieu de nous. S'il te plaît, fais-nous grâce. Ne laisse pas cet évangile mourir parmi nous, qu'il perde sa vie. Que la vie dont nous avons entendu parler ce matin puisse rester en nous.